Avez-vous fait du télétravail au cours des derniers mois? On nous dit que le télétravail est là pour demeurer. Plusieurs entreprises souhaitent conserver le télétravail et pour les employés, ben, ça a bien des avantages. Pensez évidemment aux dépenses en moins à faire pour ceux qui ont à se déplacer pour aller au travail. Il y a aussi le fait que, bon... si vous travaillez, ben vous devez vous habiller, vous devez vous nourrir. Bien souvent, vous mangez au bureau, vous mangez au restaurant. Alors, les gens ont adopté le télétravail par la force des choses. Mais là, ça va devenir un choix d'entreprise et de société. Maintenant, si vous avez fait du télétravail au cours des derniers mois, lorsque vous allez produire votre déclaration de revenus, il y a des avantages fiscaux au télétravail. Avec nous ce matin, Olivier Lévesque, il est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour Olivier.
Bonjour, bon matin.
Il y a des avantages à ça parce qu'on peut déduire effectivement là la portion de la maison qu'on a utilisée en télétravail et ça nous donne donc des avantages au niveau fiscal.
Oui, bien effectivement, on le sait, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En temps normal, tout salarié ou tout travailleur à commission, également, on va mettre les travailleurs autonomes dans le même bateau, peuvent déduire une portion du bureau à domicile qu'on appelle. Donc, la déduction est permise dans la loi à condition que ce soit, un, le principal lieu de travail, donc plus de 50% de nos activités de travail se passent à la maison, ou que, deux, une pièce dans la maison soit utilisée exclusivement pour gagner un revenu d'emploi et qu'on y rencontre des clients sur une base régulière. On s'entend, en 2020, ça risque d'être le premier critère, c'est-à-dire le principal lieu de travail. Normalement, il faut regarder notre principal lieu de travail sur une année complète. Dans ce cas-ci, le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'elle accepterait cette année un assouplissement, donc qu'on regarde le principal lieu de travail sur une certaine période de temps. Donc, on le sait, c'est arrivé à la mi-mars. Donc, le gouvernement fédéral s'est ajusté là-dessus. Il va accepter qu'on dise qu'on a fait du travail à la maison, principalement, depuis la mi-mars. Il y a certaines formalités administratives qui sont à respecter pour pouvoir réclamer cette déduction-là.
Bon,
il faut obtenir de l'employeur le formulaire T2200 et le TP64.3. C'est quoi cette bébite-là? C'est en fait la déclaration des conditions de travail où l'employeur indique au gouvernement qu'il a demandé à l'employé de faire du télétravail et que c'est lui-même qui a acquitté ses propres dépenses.
Parfait. Alors ça, c'est une formalité en soi?
Oui. Là, il y a des pressions de CPA Canada qui demandent un allègement pour 2020 au gouvernement. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle à ce niveau pour savoir est-ce que le gouvernement va avoir un allègement cette année ou va continuer de l'exiger. Parce que théoriquement, sans ce formulaire signé de l'employeur, on ne pourrait pas prendre la déduction.
Ouais, sauf que les employeurs qui ont demandé à leurs employés de faire du télétravail vont évidemment signer le document sans chigner, je comprends bien. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire? Parce que, dans le fond, si j'ai travaillé à la maison, je comprends que je peux déduire une partie de mon électricité, une partie sans doute de mon Internet. Qu'est-ce que je peux déduire?
Oui, ben c'est ça. Effectivement, il y a des dépenses qui sont prescrites par la loi. Donc, des dépenses bien précises qu'on peut déduire et qui dépendent de notre statut. En fait, salarié, travailleur à commission ou travailleur autonome, on ne peut pas déduire les mêmes choses. Bon, si on commence par le salarié, si vous êtes à loyer et donc pas propriétaire de la maison, vous pouvez déduire un pourcentage de votre loyer. Au niveau du chauffage, de l'électricité, de l'Internet, certains entretiens mineurs et pour des fournitures utilisées seulement pour votre bureau, vous pouvez déduire toutes ces dépenses-là au prorata de l'utilisation de votre bureau sur la superficie totale de la maison.
Oui, bien, ça, là, il faut le déterminer. Comment on détermine ça?
Oui, bien, l'agence ainsi que les paliers gouvernementaux disent qu'il faut y aller d'une méthode raisonnable. Donc, une méthode raisonnable, ce serait les pieds carrés, par exemple, pour une maison. Donc, mon bureau fait 10% de la superficie totale de la maison. Donc, j'ai droit à 10% de mes dépenses au prorata de l'utilisation.
Bon, comme si donc, moi, là, je n'étais pas organisé. Là, tu sais, ça m'est arrivé tout d'un coup. Mon employeur me demande de travailler à la maison. À ce moment-là, j'ai travaillé dans le salon, dans la cuisine, un peu partout dans la maison, avec mon ordinateur portable, mon téléphone pour répondre. Dans ce cas-ci, je fais quoi?
Bien, il y a peut-être moyen de dire, écoutez, j'aurais pu prendre cette pièce-là, Donc, cette pièce-là, qui est une chambre que je n'utilise pas, bon, que j'ai travaillé dans le salon un peu, j'ai travaillé dans la cuisine, mm-hmm. mais j'aurais pu utiliser cette pièce-là. Il faut y aller vraiment de manière raisonnable. L'important, c'est pas de dire, ben moi, j'ai travaillé un petit peu partout sur le premier étage, et puis mon premier étage, c'est 50% de la maison, donc je vais déduire 50%.
Non, je comprends.
Ça, je vous le confirme dès maintenant, là, un agent gouvernemental va vous dire que c'est pas une méthode raisonnable.
Non, mais 10%, c'est quand même intéressant. Ça veut dire 10% de la facture d'électricité, 10% des coûts d'Internet, 10% de la facture de chauffage, c'est ça?
Oui, ben exactement. Mais ça, c'est pour l'utilisation du bureau. J'apporte une nuance. Si votre bureau est utilisé seulement pour ça, donc que la fin de semaine, vous n'y allez pas, vous avez rien d'autre qui se passe dans ce bureau-là, c'est une pièce complètement dédiée à votre travail, si c'est le cas, vous pourrez déduire en pourcentage, donc par exemple 10% de la maison. Par contre, votre forfait Internet, vous l'utilisez les soirs, vous l'utilisez la fin de semaine. Donc, il y aurait théoriquement un autre prorata à aller faire. Donc, j'ai utilisé 10% de ma facture Internet pour travailler la semaine, mais j'ai également travaillé seulement 40 heures dans la semaine. Donc, est-ce que je fais un prorata en jour, en heure? Mm-hmm. Ça prend encore une fois une méthode raisonnable pour arriver à ça. Donc, au bout du compte, là, un pourcentage fois un autre pourcentage fois le coût de la dépense, ça vient à pas faire tant que ça. Là.
Parfait. Donc, là, ça devient compliqué.
C'est important d'appliquer cette raisonnabilité-là.
Ouais, OK, ça devient compliqué un peu. Est-ce que le calcul en vaut la peine? C'est-à-dire que lors d'une prochaine déclaration de revenus, est-ce que les allègements vont être suffisamment intéressants pour que je me tape le travail? Là, tu sais?
Ben, je me suis permis un petit exemple chiffré. Donc, un salarié, 50 000 par année, qui a utilisé son bureau, donc qui était 10% de la maison, seulement pour le travail. Donc là, encore une fois ici, 100% pour le travail, 10% de la maison. Donc, et des dépenses mensuelles totales à, disons, 300 $, on va être conservateur, hein, 150 $ d'électricité, 80 $ d'Internet, on va y aller vraiment conservateur. Donc, ça ferait donc 100% de mon utilisation fois 10% de ma superficie fois 9 mois fois 300 $ de dépenses par mois. Ça me donne 270 $ de déduction. Donc, ça me donne une économie potentielle d'impôt de 100 $.
Oups là! Fait que ça vaut pas la peine tant que ça.
C'est une déduction si vous faites vos impôts vous-même ou que vous montez une feuille vous-même et que vous l'apportez à votre comptable, qui peut être intéressante. Par contre, si vous apportez toutes vos factures à votre comptable et que vous lui dites, ben voici mon horaire de travail, voici toutes mes factures, maintenant tu peux t'arranger.
Ça va me coûter
je
plus cher.
Je pense que le 100 $ va vous être mangé en frais.
Ben oui, en honoraire. En honoraire. Bon, alors donc, c'est pas si avantageux que ça, finalement, sur le plan fiscal, c'est ce que j'en comprends.
C'est ça, c'est pas une dépense qui est... C'est pas une déduction qui est excessivement avantageuse dans le rapport d'impôt, mais elle est là, c'est une déduction qu'on peut aller chercher, donc vraiment, c'est à vous de voir si vous facilitez la vie à votre comptable, c'est une déduction qui peut quand même en valoir la peine.
OK. Pour conclure, des chiffres que vous avez obtenus concernant là, toutes les prestations offertes par le gouvernement, là, et là, je parle évidemment du 75% du salaire qui a été versé par le gouvernement aux entreprises là, pour payer le salaire, pour que les gens restent à l'emploi, ou encore au niveau de la PCU, là, c'est impressionnant.
Oui, ben à ce jour, là, on sait les subventions salariales d'urgence, donc la subvention de 75% des salaires, elle a été annoncée qu'elle serait prolongée jusqu'au mois de décembre. Eh bien, j'ai les chiffres en date du 23 août 2020. Il y a eu 910 000 demandes approuvées pour un total de 30 milliards de dollars versés aux entreprises à ce jour. Donc, en à peu près 5 mois de subvention, donc 5 périodes, on a 30 milliards qui ont été versés aux entreprises. Et puis, je fais simplement vous rappeler que depuis le mois d'août, la subvention salariale d'urgence a été bonifiée. Donc, elle est encore plus payante pour les entreprises qui ont une baisse très importante.
Si vous voulez plus d'informations, Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci beaucoup de ces précisions.
Merci.
Au revoir.